tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Critique. Chaque mois, sur La Grenouille, un ou une auteure vient débroussailler en votre compagnie un champ de la pensée critique.
Quel est le sujet politique du féminisme ?
Une crise économique peut se transformer en crise écologique.
Critique. Parce qu'on est dans une politique qui n'est pas social-libérale.
C'est toujours le dominant qui choisit la forme de la lutte.
Critique. Une émission proposée et présentée par Nicolas Heringer et Emmanuel Riondet. À écouter maintenant dans tous vos états. Critique.
Bonjour, c'est la saison 2 de Critique, l'émission consacrée à l'actualité des pensées critiques. Pour cette nouvelle saison, on vous réserve quelques surprises, un nouveau format et peut-être même un passage à une diffusion hebdomadaire, mais on aura largement l'occasion de revenir dessus quand ça se précisera. Pour cette première émission de la saison, nous recevons Jade Lingard. Jade Lingard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart, spécialiste des questions environnementales et climatiques, et vous publiez, en cette rentrée littéraire, comme on dit, un ouvrage qui s'appelle « Je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi » aux éditions La Découverte. On n'a jamais autant parlé de changement climatique, de fait, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais dans le même temps, ces émissions n'ont jamais été aussi élevées, elles ne cessent d'augmenter. Et peut-être que l'un des problèmes, c'est qu'on a du mal à identifier où commence la crise climatique, où commence le changement climatique. C'est quelque chose qui peut apparaître comme étant abstrait parfois, c'est-à-dire c'est des molécules, une quantité de CO2 dans l'atmosphère qui est par ailleurs en quantité infinitésimale. Alors où commence le changement climatique ? Est-ce qu'il commence dans les politiques industrielles, à la sortie d'une cheminée d'usine ? Est-ce qu'il commence dans l'atmosphère ? Vous faites une proposition un peu provocante, un peu radicale et un peu nouvelle, c'est de dire que ça commence chez nous, dans notre chaudière par exemple.
Oui, parce que le climat, on est face à un phénomène multi-échelle qui, en effet, en grande partie, nous dépasse. Et la meilleure chose la meilleure manière de s'en rendre compte, finalement, c'est de constater que on ne peut prendre conscience du dérèglement climatique que par l'intermédiaire d'un savoir scientifique, qui est un savoir scientifique complexe, technique, une affaire de chiffres qui mesurent des quantités dont on peine à percevoir la signification, finalement, physique, les fameuses parties par million de CO2 ou de méthane, en tout cas de gaz à effet de serre concentrés dans l'atmosphère. Et finalement, ce sujet climat est apparu à travers des rapports, qui étaient les rapports du GIEC, donc ce groupe de scientifiques spécialisés dans l'étude de plein de parties du climat, physique, chimie, bon, etc. Et donc on voit bien qu'il y a un effort de représentation extrêmement difficile si l'on part de ce type de documentation qui sont au fond très bureaucratiques et technocratiques, très abstraites en tout cas. Et on voit bien que l'un des effets de ça, enfin en tout cas pour moi aujourd'hui c'est assez clair, l'un des effets de ça c'est qu'il ne suffit pas de connaître le dérèglement climatique, il ne suffit pas de savoir qu'il se produit pour finalement le comprendre et pour comprendre de quoi il s'agit. Et il m'a semblé que dans ce moment un peu de confusion dans lequel on vit, où on a à la fois plein de savoirs et plein de connaissances sur la réalité de ce dérèglement climatique et en même temps plein d'impuissance, puisque nos sociétés globalement restent assez inerte finalement par rapport à l'enjeu, ou plus précisément les sociétés se mettent en branle, commencent à mettre en place des politiques publiques. Il y a toute une série d'initiatives individuelles, sectorielles, etc. qui se développent, mais qui sont très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Il m'a semblé qu'il y avait un grand inconnu, un grand absent de ce débat, c'est l'individu, c'est soi-même. Or là où ça me semble être un sujet pertinent de cette question climatique, c'est que le dérèglement climatique ne se passe pas en dehors de nous. Il est même provoqué en partie par nous et par nos modes de vie. Et ces modes de vie sont les déplacements, prendre sa voiture, ce qu'on appelle la mobilité, avec un terme un peu bureaucratique, se chauffer chez soi, consommer Internet, faire ses courses, s'alimenter, et que ça part quand même de nous, et que de ce point de vue-là, on pourrait dire, ouais, le climat, il commence à se dérégler dans ma chaudière.
C'est pour ça que vous avez fait... Bonjour, Jade Lingard. C'est pour ça que vous avez fait ce choix narratif du jeu crise climatique, et de vous mettre un peu en scène, puisque c'est un peu le cas des fois dans le bouquin.
Ouais.
C'est pour ça que vous avez fait ça.
C'est tout à fait pour ça. En fait, il y a deux choses. Il y a à la fois parler d'un individu, mais vous voyez, quand je dis individu, c'est un mot abstrait aussi. Et là, il me semble qu'il faut au contraire absolument rapprocher cette question du climat des personnes et des gens, et que du coup, il faut parler de soi-même, quoi, parce que c'est une écriture sensible, et c'est aussi une manière de ne pas être arrogant, de ne pas avoir un point de vue surplombant, moralisateur, qui donne des consignes aux autres en soi-même, en s'écartant de ses propres injonctions. Non, en fait, on est tous là-dedans, y compris celui qui écrit. Donc c'est aussi une position par rapport à l'auteur. Qu'est-ce qu'un auteur par rapport à son lecteur ? Ben, c'est un lecteur, simplement, qui a passé plus de temps que d'autres, peut-être à faire des recherches et à réfléchir à ce sujet-là. Mais en tout cas, je suis dans la même, en tant qu'auteur, je suis dans la même galère que mon lecteur, en tout cas mon lecteur potentiel. Et l'autre aspect, et là c'est plus une réflexion en tant que journaliste, c'est que pour moi, aujourd'hui, le dérèglement climatique, il atteint une telle ampleur en réalité qu'il nous oblige, il nous contraint, il nous enjoint à sortir de notre zone de confort. Ma zone de confort en tant que journaliste travaillant dans un journal d'information, qui est Mediapart, mais ça pourrait être dans un autre journal d'information, ma zone de confort, c'est un point de vue en apparence neutre. Je dirais pas objectif, parce que voilà, ça n'existe pas, on le sait bien, un fait est toujours une construction, mais en tout cas, assez neutre, en tout cas à la troisième personne. Donc ma zone de confort, c'est raconter comment font les autres, faire une interview d'une personne, etc. Là, moi, il me semble qu'on est encore une fois face à un tel échec dans le récit de ce qui est en train de se passer, qu'il faut sortir de sa zone de confort, et qu'une des manières de le faire, eh ben, c'est de parler de soi-même, pas du tout pour faire son intéressante, ou sans doute qu'il y a une part de narcissisme, mais en tout cas, c'est pas, j'espère, uniquement pour ça. C'est aussi pour se mettre à la hauteur de celui qui lit ou écoute.
Mais c'est pas que du narcissisme, dans le sens où c'est aussi générationnel. C'est-à-dire, je crise, déjà, c'est une référence, évidemment, un peu à un slogan.
À une expression.
Une expression qui est datée.
Qui est datée.
Et puis, il y a cette bulle de plastique jaune, ce truc que vous avez le même âge que le réchauffement climatique.
Oui, alors ça, c'est en effet l'un des chiffres, des rapprochements vertigineux qui m'ont beaucoup frappé quand je me suis rendu compte que finalement, si on regarde aujourd'hui la quantité des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère, la moitié de ces gaz à effet de serre, à peu près, a été émis depuis 40 ans. En fait, il se trouve que j'ai 40 ans, donc je me suis dit, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, c'est l'histoire de ma vie. Or, c'est une histoire qui avait été complètement en dehors de ma vie jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puisque finalement, ça ne fait pas si longtemps que je m'intéresse et que je m'intéresse profondément à ces questions. Ça ne fait pas si longtemps. Et donc, il y a ce phénomène majeur, énorme, qui est en train potentiellement de changer le cours de l'histoire humaine et puis naturelle, qui s'est passé, qui est exactement contemporain de ma propre petite existence et qui en a été tenu, écarté, éloigné pendant des années. Et pour moi, c'est beaucoup, et en effet, c'est beaucoup passé pendant mon enfance par le fait d'avoir grandi en ville, dans un univers artificialisé. Et quand je dis je suis dans une bulle de plastique orange, c'est métaphorique évidemment, et c'est pour dire que l'environnement dans lequel j'ai grandi en tant qu'enfant, c'était à Paris, dans le sud de Paris, dans le 15e arrondissement, c'était un univers complètement synthétique. Tout était en plastique, cette couleur orange, pour moi, elle est emblématique de ce moment vraiment d'artificialisation. La nature avait été complètement exclue de notre paysage d'intérêt, de l'école. Enfin, c'était absolument, absolument absent. On avait tous ces objets absurdes comme le couteau électrique pour couper la viande. Il y avait la yaourtière. Enfin, tout était mécanisé, artificialisé. Il n'y avait pas de rapport à la ferme. Enfin, la nourriture était arrivée en boîte, en paquet. Et ça nous allait très bien. C'était même assez confortable. Et pour moi, il y a dans le fait d'avoir eu cette expérience, et je me rends compte par les retours que j'ai maintenant de certains lecteurs, que c'est une expérience partagée, que sont des souvenirs en fait, en commun avec toute une série de personnes qui ont mon âge en fait, qui ont cette génération-là née 73, donc en plein début de la crise du pétrole, qui a créé une distance qui n'est pas la seule raison de notre inertie, très clairement, mais je pense qu'il y en a une importante dans la mesure où il y a comme une couche de sensibles artificialisées qui a fait partie de nous-mêmes et dont il me semble aujourd'hui il faut se défaire.
Alors cette distance artificialisée, le moment le plus emblématique peut-être qu'il y a dans le livre, c'est autour précisément de la question de votre chaudière. C'est-à-dire que vous menez une enquête pour savoir ce qu'elle consomme, comment elle fonctionne, et c'est quasiment impossible d'obtenir des réponses.
Voilà, parce qu'en fait, notre mode de chauffage est aujourd'hui l'une des premières causes d'émissions de gaz à effet de serre, en tout cas de CO2, en France, et je me suis rendu compte à quel point j'étais absolument ignorante de comment fonctionnait l'engin par lequel, en gros, j'émettais tout ce... l'engin par lequel je déréglais le climat. Donc c'est ma chaudière, donc j'ai entrepris d'écrire l'histoire de cette chaudière. Je me suis rendu compte que c'était un engin hyper banal, c'est une chaudière à gaz, c'est un engin hyper banal qui a été vendu à des centaines de milliers de ménages et de foyers. Je m'en étais jamais préoccupée. Et ça m'a quand même beaucoup interrogée, cette invisibilité. Finalement, j'avais une usine, une sorte de petite usine à domicile, domestique, qui était parfaitement invisible. Je m'en étais jamais souciée. Et pour moi, ce que ça dit, cette histoire-là, c'est à quel point on a été déresponsabilisés. Alors, à la fois par le fait de vivre en ville, par le consumérisme, par la manière dont s'est construit aussi le marché, la grande distribution, le marché des produits d'énergie, le fait que quand on reçoit ses factures, par exemple, aujourd'hui, c'est en train de changer, heureusement, mais aujourd'hui, on ne sait pas quelle quantité exactement on consomme. D'ailleurs, on ne sait pas en direct combien on consomme. Et donc, tout ça, en fait, est tenu à distance de nous, ce qui fait que quand on commence à vouloir s'en soucier et à réduire, à essayer d'agir à son niveau individuel ce qui dérègle le climat, c'est quand même extrêmement difficile. Il y a un travail de réincorporation, il y a aussi un travail pour moi sur les sens. Et j'ai été très frappée de découvrir par exemple que historiquement, les radiateurs, ce qu'on utilise aujourd'hui nous pour se chauffer dans nos logements, qui est vraiment hyper banal et partagé, quotidien, en fait sont des appareils qui ont été inventés à l'époque pour les processus industriels, et que c'était incroyable de se rendre compte à quel point ces appareils, qui finalement sont assez récents dans nos logements, hein, parce qu'en gros, la généralisation des radiateurs dans les logements en France, c'est post-Seconde Guerre mondiale, donc c'est un demi-siècle, à peine un demi-siècle, et qu'en fait, en l'espace de quelques décennies, ils avaient réussi à complètement effacer ce qui était notre culture historique de la chaleur, à savoir le rapport au feu, le rapport au poêle, et que se chauffer au feu, c'était complètement différent. C'était une forme de volupté thermique qui était liée à l'odeur du feu, à la beauté des flammes, à leur lumière, qui avait tout un ensemble de sens qui était activé par le feu. Tout ça a été effacé, oublié par la présence du radiateur, et que donc aujourd'hui on a cette espèce de blocage où quand on dit qu'on est écologiste et qu'on veut réduire la consommation d'énergie, on dit « Ah mais vous voulez que les gens aient froid ?» Non, on veut aussi renouer avec un sens qui a été perdu et artificialisé dans notre propre ignorance sans même qu'on s'en rende compte.
Critique.
Donc nous recevons Jadeline Garde, auteur de « Je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi ».
Pour autant, vous ne plaidez pas non plus dans ce bouquin pour un retour à la Terre type années 70 où on va se tricoter les pantalons en peau de zébu. On vient de parler de la chaudière. Un autre exemple un peu structurant dans votre ouvrage, c'est celui de la voiture. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur voiture qui apparaît un peu comme une véritable névrose, le rapport qu'on a à notre voiture, nous citoyens du 21e siècle occidentaux, le rapport à la voiture, c'est assez étonnant ce que vous en montrez.
C'est-à-dire que la voiture, en effet, je trouve que c'est vraiment un exemple, c'est vraiment un objet hyper intéressant. Parce que quand on regarde autour de soi, alors dans un pays industrialisé, en climat tempéré, c'est plutôt ce contexte-là dont je parle, mais quand on regarde autour de soi, quand même la plupart des ménages possèdent au moins une voiture, en tout cas utilisent au moins une voiture, et c'est sans doute l'objet dont ils ont le plus de mal imaginé se séparer. Quand on regarde les chiffres, encore une fois, c'est vraiment très intéressant d'essayer de caractériser une situation qui est invisible et nous échappe au quotidien. Quand on regarde les chiffres, il y a un décalage énorme entre la puissance que les engins que possèdent les engins qui sont utilisés par les personnes, donc la puissance en termes de vitesse, la capacité aussi d'autonomie énergétique de ces voitures, et dépasse considérablement l'usage qu'ils en font concrètement. Et quand on regarde par exemple quels sont les blocages aujourd'hui au développement de la voiture électrique, dans les sondages qu'on peut faire ou les études, le premier argument qui est opposé par les personnes interrogées, c'est la peur de ne pas avoir assez d'autonomie, la peur de tomber en panne avec sa voiture électrique au bout de quelques kilomètres. Or, une voiture électrique aujourd'hui est autonome entre 50 et 100 km, ça dépend de la vitesse à laquelle vous roulez, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est déjà beaucoup plus que ce que parcourt en moyenne une voiture en France chaque jour, cette moyenne est autour de 17 à 20 km par voiture. Donc, on veut avoir une voiture puissante, sans rapport direct avec l'usage qu'on en fait. Il s'est logé dans la voiture quelque chose qui est à la fois assez névrotique, alors on va dire névrotique, c'est un mot négatif, mais en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de l'identité, d'une identité du motorisé, qui dépasse de très loin sa dimension utilitaire et qui sert à la fois d'espace d'expression de soi, d'estime de soi, de signe de réussite sociale, et qu'on est vraiment face à quelque chose qui, du coup, très difficile de modifier uniquement avec un discours sur l'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une telle charge symbolique aujourd'hui autour de la voiture, et pour moi ce qui est exemplaire de ça, on va me dire c'est caricatural, mais quand même ça existe, ce sont les salons de l'auto. C'est-à-dire le salon de l'auto qui est une mise en scène incroyable, non seulement de la voiture, mais d'un rapport très viril à la voiture, puisque qui dit salon de l'auto dit hôtesse, plus ou moins dénudée, plus ou moins apprêtée, mais en tout cas il y a une voiture, il y a une fille à côté, quoi, pour la mettre en scène. On est dans la même chose, on est dans quelque chose de très sexuel, de la possession, de l'ordre de la possession, de la prédation, etc., qui est très présent. Et on a aussi autre chose, c'est le royaume du discours. Et il se trouve que je me suis rendue il y a 2 ans maintenant au salon de l'auto de Genève. J'ai trouvé particulièrement intéressant parce qu'on voit bien à quel point c'est le royaume du discours, dans le sens où ce discours allait jusqu'au fait que les constructeurs automobiles qui étaient présents avaient par exemple complètement intégré le discours écologique. En tout cas dans le discours. Donc, quand je les interrogeais sur, est-ce que le marché automobile n'est pas menacé par la transition écologique, par le dérèglement climatique, en fait, ils me répondaient, nous, on a complètement intégré, bien sûr, c'est très important, la transition énergétique, on veut y participer. Et d'ailleurs, m'expliquait un constructeur, Volkswagen, pour ne pas le nommer, son directeur commercial, enfin, ou développement durable, je ne me souviens plus, m'expliquait, mais bien sûr, c'est très important. D'ailleurs, nous savons bien que notre avenir n'est pas de vendre une voiture à un ménage en ville. Notre avenir, c'est de devenir un fournisseur de services de mobilité premium, c'est-à-dire de luxe, quoi, si possible, en rajoutant plein d'abonnements. Et donc, de ne plus simplement vendre l'objet voiture, mais de vendre le service de la voiture. Alors, ça peut avoir un aspect écologique, puisque si finalement ça aide les gens à se déplacer avec les voitures des autres, ça ferait toujours ça de moins. Mais on voit bien que l'idée même de... cette idée du voyage individuel... que la voiture a amené, réussit, en tout cas dans son discours, à perdurer au-delà même de l'objet voiture. C'est dire à quel point c'est devenu en fait un phénomène complètement civilisationnel.
Alors du coup, de ces choix et de cette dimension individuelle, presque psychologique, des freins au changement climatique, vous ne tirez pas pour autant l'idée que lutter contre le réchauffement climatique, c'est la politique des petits gestes, couper l'eau quand on se brosse les dents ou ce genre de choses. Vous plaidez en fait pour des politiques des modes de vie et pour discuter des questions qui relèvent traditionnellement, ou qui relèvent en tout cas depuis au moins la Révolution française, de la sphère privée dans l'espace public.
Oui, parce qu'il y a vraiment les petits gestes, c'est hyper impopulaire, c'est toujours moqué comme étant le comble du ridicule. Vraiment, les écolos, ils ne servent à rien, puis en plus, ils nous disent d'éteindre le robinet quand on se lave les dents, c'est ridicule. Ok, c'est ridicule. Pour autant, faut-il condamner toute action à l'espace au niveau individuel ? Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que le niveau individuel est très important et pour les raisons qu'on a décrites précédemment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un blocage au niveau individuel, un blocage culturel et psychologique, civilisationnel, et que dans un moment de crise économique, de crise sociale, de perte de croyance aussi en politique, on est en gros un peu accablé de toutes parts par une vision de l'impuissance, une culture de l'impuissance. On a l'impression qu'on ne peut rien changer au chômage, rien changer à nos systèmes politique et encore moins au climat, qu'est-ce qu'on pourrait bien changer au climat ? Or, ça ne changera pas s'il n'y a pas prise de conscience et mise en marche finalement des individus qui ne sont pas que des individus, ils sont aussi des citoyens. Et donc, ma proposition, mon idée, c'est de dire qu'il faut d'urgence ouvrir un chantier de discussion politique. Moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais un chantier de discussion politique sur comment on repolitise cet espace privé. Comment le repolitiser, mais sans... Alors là, on m'oppose souvent, mais c'est le communisme, c'est la collectivisation forcée, quel exemple historique affreux, etc. Non, je pense pas. Oui, il y a des exemples, évidemment, de tyrannie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire peser une tyrannie absolue sur la vie privée des gens. Là, ce serait une perte en liberté insupportable pour une démocratie. Mais en revanche, de dire, pourquoi ne pas se déprivatiser ? Et surtout, en commençant par voir à quel point votre espace privé d'intimité, il a été complètement colonisé par une forme de libéralisme existentiel. Vous vous pensez libre en tant qu'individu. En réalité, vous êtes des consommateurs. Et quelle liberté ? Est-ce vraiment une liberté que d'agir sans prendre en compte les effets de notre mode de vie sur les autres et sur un environnement ? Est-ce vraiment une liberté ? N'est-ce pas une aliénation ? Si on retourne ça dans l'autre sens, et ben du coup, on se rend compte qu'il y a un espace possible d'action individuelle qui permet, mais qui sont pensés pas uniquement comme une fin en soi. Je pense que c'est ça la différence avec le micro-geste ou l'éco-geste. C'est penser au contraire comme un début et donc penser la transformation personnelle. Peut-être que c'est un peu fort comme expression, mais en tout cas un changement personnel en lien avec une transformation sociale. Et je pense que c'est ce lien-là aujourd'hui, c'est cette dynamique-là qu'il faut travailler.
Un changement aussi dans le rapport aux besoins et à la nécessité. Vous citez une phrase de Marx, on parlait de communisme tout à l'heure, qu'il y a chacun selon ses besoins, et vous nous dites, mais ça, c'est justement ce qu'on ne peut plus demander aujourd'hui.
C'est ce qu'on ne peut plus demander aujourd'hui, et c'est vrai que ça fait mal au cœur, parce que c'était une phrase magnifique, c'était une phrase de volonté d'égalité, de redistribution, c'est le socialisme, et ben, chacun, avant c'était chacun selon sa naissance, et maintenant ça sera chacun selon ses besoins. Donc c'est la volonté d'une égalité très forte, et qui a un message qui était merveilleux, mais qui n'est plus merveilleux aujourd'hui. En fait, qui est devenu un message en partie oppresseur, oppresseur des autres, parce que c'est chacun nos besoins. Nos besoins, c'était pas les besoins de tout le monde, en fait. C'était les besoins des plus riches. Enfin, c'est toujours les besoins des plus riches. Et les plus riches, y compris nous, pays, habitants des pays industrialisés, qui sommes les plus pollueurs. Et de très, 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 très loin par rapport aux pays pauvres. Donc, en fait, nos besoins n'étaient pas les besoins des autres. Et en fait, ont été satisfaits au détriment des conditions de vie des autres, des plus pauvres, etc. Et par ailleurs, en situation de changement climatique, certains parlent même d'anthropocène. Moi, je suis assez critique avec cette notion, je la trouve potentiellement trop dépolitisée. Mais en tout cas, de base de bouleversement à plein d'échelles de la nature, de la perte en biodiversité, des océans dont le niveau monte, enfin, tous ces phénomènes-là d'empreintes, de nuisances, finalement, qui bouleversent et abîment l'écosystème. Dans cette situation-là, tout simplement, continuer à vouloir simplement répondre à ses besoins, même si c'était à la base pour une raison un peu altruiste, aujourd'hui, c'est devenu une forme d'égoïsme. Parce que tout ce qu'on émet aujourd'hui comme CO2, nous-mêmes, pour nos propres besoins, ne pourra pas être émis par les autres. Et si c'est émis par les autres, soit qui ne sont pas encore nés, soit qui n'ont pas encore notre niveau de pouvoir d'achat, si eux font comme nous, alors les bouleversements naturels seront absolument colossaux, destructeurs de vie humaine et de nature.
On va reprendre cet entretien après une pause musicale avec Tammy Crest, donc un groupe Touareg. وانا وين دار طرد دار نرجع شاش كانوا يرجع شاش الوين نرجع شيء نكا ورجع لنا بدنا الحرية نكا نسنا نرجع شنا غزوات Vous êtes bien dans Critique, l'émission de Radio Grenouille consacrée à l'actualité des pensées critiques. C'était Tammy Crest. Aujourd'hui dans Critique, on crise climatique avec Jade Lingard autour de son ouvrage « Crise climatique ». Mais on va aussi essayer de décriser climatique et donc de discuter un peu de, des perspectives ou des alternatives. Alors l'un des premiers défis peut-être, c'est celui des échelles. Alors vous, vous concluez votre ouvrage là-dessus, sur le fait que ce qui compte, ce n'est peut-être pas tant les solutions que les échelles. Et c'est un peu un écho aussi à ce que Bruno Latour dit du changement climatique, mais plus généralement de l'anthropocène. Le problème, c'est que plus rien n'est à la bonne échelle. Ouais. Les effets et les causes se confondent. Le local et le global s'entremêlent. Alors, qu'est-ce qui se joue autour des échelles ?
C'est vraiment la, pour moi, c'est vraiment la question de comment résister et débugger ce ressenti d'impuissance. Et comment, en même temps, ne pas penser à ne pas arriver à des solutions trop individualistes. C'est-à-dire à la fois comment reprendre du pouvoir. Donc empowerment, c'est voilà, c'est une notion maintenant bien connue qui vient des années 60, mais qui me semble s'applique assez bien à la situation dans laquelle on est aujourd'hui par rapport au climat en termes de nécessité d'action. Empowerment donc personnel. On vient d'expliquer. Voilà, pour moi, c'est vraiment hyper important et rien ne bougera au fond s'il n'y a pas plus de prise de conscience individuelle et d'action individuelle et de se rendre compte que j'arrive à changer un petit truc. Au début, ça paraît anecdotique, ça va être par exemple juste commencer à composter un peu ses déchets organiques, et c'est vrai que c'est assez jouissif de voir qu'ensuite tu peux le mettre dans ton potager, ou même si tu n'as pas de potager, simplement dans ton sur ton petit balcon, etc. Ça va te faire pousser peut-être du basilic, une petite herbe odorante, ou voir des fleurs, et du coup voilà, c'est un tout petit truc absolument insuffisant, mais voilà, un début de, d'action sympathique. Ok, il y a ce truc-là, mais il y a aussi énormément la question de la solidarité. C'est encore une fois se déprivatiser, essayer de penser des politiques, des modes de vie. On ne peut pas le faire tout seul, ça n'a pas de sens tout seul, et surtout, simplement tout seul, ça pourrait finalement servir une nouvelle situation, un nouveau régime tout aussi néolibéral que celui que l'on connaît aujourd'hui. Or, on voit bien, la marchandisation, la mondialisation a énormément contribué à ce dérèglement climatique. Et donc, penser les échelles, c'est pas simplement penser soi-même face aux défis climatiques qui nous dépassent, c'est penser soi-même avec les générations qui viennent, mais encore plus, penser soi-même avec les autres aujourd'hui. Et qu'il y a là, pour moi, un exemple qui est très intéressant et fort, et en plus qui a quand même en partie été fructueux, qui est celui du féminisme. Et pourquoi je parle du féminisme sur le climat ? Bah parce que les féministes, à partir du début du XXe siècle, elles se sont battues pour le droit de vote, donc un droit politique général qui concernait tout le monde. Elles se sont battues pour des droits sociaux, la liberté d'avortement, la liberté de, le droit à l'avortement, la liberté de contraception. Elles se sont battues aussi pour l'égalité du partage des tâches à domicile. Et certes, il y a eu des débats entre elles, faut-il prioriser les droits politiques ou faut-il prioriser les droits sociaux, mais globalement, le mouvement a avancé de front. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'écologie et d'action par rapport au climat, on s'empêche de penser de front ? Ce qui en fait pourrait tout à fait l'être et créerait un début de réponse à ce décalage d'échelle.
Ce qui nécessite aussi du coup de penser, ça c'est présent dans votre bouquin, les inégalités face à ces enjeux, les inégalités sociales.
Les inégalités sociales.
Ça nous renvoie un peu à l'invité qu'on a vu l'an dernier, Razmik Kechoyan, sur le racisme environnemental. C'est présent dans votre bouquin quand vous évoquez les data centers en Seine-Saint-Denis notamment.
Absolument, un data center, c'est un bon exemple d'objet nouveau. Finalement, d'objets nouveaux, d'objets postmodernes ou contemporains, si on prend des catégorisations un peu plus philosophiques, mais en gros de dire, finalement, on est en effet, on consomme de plus en plus Internet. On a cru pendant un moment que c'était une manière de dématérialiser l'économie et nos pratiques. En fait, pas du tout. Ça a recréé plein de matériel, mais encore plus invisible que les usines précédemment. Et il se trouve que en France, le territoire où il y a la plus grosse concentration de data centers, qui sont ces entrepôts de serveurs informatiques qui servent à faire fonctionner Internet, la plus grosse concentration, c'est en Seine-Saint-Denis, un territoire qui est particulièrement pauvre, ségrégué, discriminé, etc. Et pourquoi c'est un problème ? Eh bien, parce que, un, ça consomme énormément d'énergie, c'est de l'électricité, donc beaucoup d'électricité. Donc, c'est autant d'électricité qui ne sera pas utilisable pour autre chose ? N'y aurait-il pas des usages sociaux plus au service de ce territoire que les data centers qui servent à tout le monde, hein, c'est pas du tout pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, c'est pour absolument tout le monde. Et la deuxième chose, c'est quelles sont les villes qu'on se construit quand des quartiers entiers commencent à apparaître avec ces entrepôts sous caméras de vidéosurveillance qui créent très peu d'emplois. Et donc, questions urbaines, questions sociales, questions écologiques sont profondément liées. Et moi, par rapport à ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important, c'est qu'une vraie politique écologique, en fait, c'est une politique de redistribution. Mais elles sont jamais présentées comme ça parce qu'elles sont peu menées comme ça. Et si on pense par exemple simplement, on parlait de la chaudière au début, l'enjeu de l'économie d'énergie de chauffage, qui est un enjeu majeur, qui repose pas simplement sur soi-même, avoir moins chaud chez soi, enfin moins se chauffer, mais aussi vivre le droit au logement dans un logement qui est économe en énergie, voire qui n'en consomme plus du tout comme c'est possible techniquement aujourd'hui, ça c'est une politique de redistribution sociale et c'est ça que devrait demander finalement l'écologie politique aujourd'hui.
Alors, vous faisiez le parallèle avec le féminisme. Il n'y a pas que des parallèles, il y a même des croisements. Alors, il y a tout le champ de l'écoféminisme. Et il y a notamment donc, une philosophe et militante qui s'appelle Giovanna Di Chiro, qui, elle, parle de ramener l'écologie à la maison. Et Giovanna Di Chiro, c'est aussi l'une des initiatrices des Toxic Tours, qui pose un peu cette question à la fois des modes de vie et des cadres de vie. Or, vous faites partie d'un collectif en Seine-Saint-Denis qui a organisé Toxic Tours. Le premier d'entre eux, c'était précisément autour des data centers.
Ouais.
Et le 1er octobre dernier, à Marseille, à la Savine, vous avez participé aussi à un Toxic Tour. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Toxic Tours et en quoi ça concerne la lutte contre le réchauffement climatique ?
Alors, absolument. Alors, Giovanna Di Chiro, c'est la philosophe Émilie Hache qui m'a fait découvrir cette référence-là, effectivement, qui est une chercheuse très, très importante pour exactement cette raison de faire un lien profond entre comment on vit, dans quel contexte on vit, comment ça se passe chez soi, les nouvelles formes d'inégalité. Et Giovanna Di Chiro, par exemple, elle considère que le système productif, en fait, que notre vie quotidienne est insérée aussi dans un système productif. Et que le marxisme a pensé le travail comme un système productif, mais qu'en fait, la maison aussi, la maison, l'école, le soin, ce qu'on appelle le care, fait partie aussi d'un système productif, et donc d'aliénation, d'exploitation, etc. Et donc, par rapport à ça, les Toxic Tours, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des visites guidées de lieux de pollution. Ils sont apparus dans les années 70 aux États-Unis, au départ, dans des quartiers populaires, souvent très pauvres, et qui étaient aussi des quartiers, qui étaient d'ailleurs aussi des quartiers de discrimination raciale, beaucoup, et qui étaient aussi, troisième cerise sur le gâteau, si je puis dire, des quartiers souvent construits à côté de décharges hyperpolluantes, d'installations industrielles très émettrices de toxines ou de substances dangereuses pour la santé, et des habitants dont, d'ailleurs, personne ne se préoccupait, et à commencer par les ONG écologistes, ont commencé à se mobiliser en disant « ce truc nous empoisonne, ces trucs nous empoisonnent, venez les voir ». Et donc, on commençait à faire des toxic tours, donc des balades toxiques. En fait, nous, notre projet en Seine-Saint-Denis aujourd'hui est un tout petit peu différent, mais complètement, enfin, s'inspire vraiment de ces mouvements qu'on appelle de justice environnementale. Notre projet est le suivant. En 2015, en décembre 2015, se tient à Paris un sommet international qui est très important, qui doit déboucher sur un nouvel accord international de lutte contre le dérèglement climatique qui doit être signé par les États. Or, ce sommet se passe, on l'appelle le sommet Paris Climat 2015. En réalité, il ne se passe pas à Paris, il se passe au Bourget, donc en Seine-Saint-Denis. Et notre projet, et enfin ce qu'on est en train de faire, c'est l'organisation de balades toxiques, donc de toxic tours, de lieux d'émission de pollution, qui sont aussi des lieux d'émission de gaz à effet de serre. Et l'idée, c'est de dire, voilà, le climat, c'est retourner, en fait, prendre à l'envers la question du climat, pas simplement sur ses effets, mais beaucoup plus sur ses sources. Les sources du climat, les sources des émissions de gaz à effet de serre, que sont le trafic automobile et le trafic aérien, par exemple, sont aussi des causes de nuisance. Des causes de nuisance pour les habitants. La Seine-Saint-Denis est traversée par les autoroutes, c'est un département balafré, c'est absolument hallucinant. Dans la ville de Saint-Denis, par exemple, qui est une des vraiment plus grosses villes de la Seine-Saint-Denis, si ce n'est la plus grosse en termes d'habitants, vous avez des quartiers entiers qui sont ravagés par les autoroutes. Leurs résidents eux-mêmes parlent de balafres urbaines et de volonté de réparer les balafres. Et donc nous, notre proposition, on en fait un le 26 octobre à Saint-Denis sur les autoroutes, c'est de dire... Habitants, venez avec nous, mais surtout les autres qui ne connaissaient pas Saint-Denis, on va vous faire visiter ces lieux de pollution. On va vous expliquer le rapport, déjà, tous les effets néfastes de cette pollution pour les habitants en termes de bruit, en termes de maladies, de cas d'asthme, d'allergies, etc. Montrer et expliquer le lien avec le dérèglement climatique, se rassembler et essayer de trouver ensemble des formes de réparation. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à la place ? Quelles sont les formes de détox ? face à ces toxic tours et ainsi montrer que le climat, c'est pas une question abstraite éloignée de nous, c'est une question sociale, c'est une question urbaine, c'est une question de cadre de vie et ensemble, on peut trouver des formes de mobilisation qui seront peut-être un peu tristes, mais qui pourront aussi être apporteuses d'énergie. Et le toxic tour qui s'est organisé à Marseille, dans le quartier de la Savine, moi j'en suis pas organisatrice, j'ai juste participé et j'ai trouvé ça absolument impressionnant. Impressionnant et généreux et beau et émouvant. Là, c'était vraiment très fort. Ce sont les habitants de cette cité, de la Savine, cité en plein chantier de rénovation urbaine et donc aujourd'hui dans un état de délabrement hyper avancé. Et ces habitantes, parce que c'était beaucoup des femmes, elles ont pris le toxic tour comme une manière de faire à leur façon le diagnostic urbain que les architectes et urbanistes font sur leur quartier habituellement. Sauf que elles ont dit, nous, notre diagnostic marchand, c'est un toxic tour parce qu'on considère que ce que vous nous avez construit et ce dans quoi vous nous laissez, c'est un environnement toxique. Et donc, elles ont organisé ce tour, tour par tour, c'est le cas de le dire, bâtiment par bâtiment, renommé par leurs soins pour dénoncer les maux dont elles souffrent. Les puces, la tour des puces, la tour des pigeons immigrés, ce sont leurs mots. Ils sont très forts, ils sont violents, mais c'est à la hauteur de leur colère. Et elles ont organisé tout ce tour dans le quartier et qui a été un moment, je pense, très fort parce que de rassemblement et puis de colère quoi, qui s'est exprimé.
Critique.
Je crise climatique avec Jadeline Garde, donc qui publie cet ouvrage à la découverte en cette rentrée.
Ouais, juste avant de te laisser la parole, Nicolas, une précision par rapport à ce que vient de dire Jade, par rapport à ce qui s'est passé à la Savine le 1er octobre dernier, pour nommer les dames qui ont organisé ça, il s'agissait de l'Alliance Savinoise et du collectif des quartiers populaires de Marseille, là aussi qui est une forme de s'organiser dans les quartiers, et y compris, c'est nouveau pour eux, sur ces enjeux-là.
Et il n'est pas complètement improbable que des membres de l'Alliance Savinoise ou du collectif des quartiers populaires de Marseille viennent à Paris pour le Toxic Tour du 26 octobre.
Voilà, il y a cette proposition-là, nous on les attend, et c'est vrai que ça serait formidable, enfin nous on serait vraiment très heureux de pouvoir commencer à bâtir des débuts d'alliance, de banlieue à banlieue, de ville à ville, autour de cette problématique de Toxic Tour en banlieue, avec des personnes qui jusqu'à présent sont complètement en dehors de l'écologie, et d'ailleurs qui ne se pensent même pas comme des écolos, mais on s'en fout en fait des étiquettes.
Et alors, on sent qu'effectivement, avec la conférence de Paris sur le changement climatique, il y a un foisonnement du côté de la société civile et énormément de réflexions sur les modes d'action, les stratégies, etc. Fin septembre, il y avait à New York notamment une gigantesque marche avec 300-400 000 personnes dans la rue pour faire pression sur les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissaient le 23 septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies à l'invitation de Ban Ki-moon. Ban Ki-moon lui-même a défilé dans la rue aux côtés de Laurent Fabius, de Ségolène Royal et de quelques chefs d'entreprise. Il y a des choses bizarres qui se passent autour du climat quand même.
Il y a des choses bizarres parce que, en fait, il y a des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des lobbies industriels et politiques très forts qui résistent absolument au changement de modèle. Mais à la fois, il y a aussi des lobbies industriels et politiques qui soit comprennent qu'il y a ce changement de modèle et qu'il n'y a pas le choix, qu'il faut le faire, soit qui ont envie d'y participer. Parce qu'à un moment, finalement, parfois de désespoir politique, on a l'impression qu'il n'y a plus tellement d'objectifs, qu'il n'y a plus tellement d'horizons. La cause du climat, c'est une vraie cause. C'est une belle cause, c'est une cause de solidarité, de rapport nord-sud, de réconciliation avec la nature. Donc je pense de bonne foi, y compris, il y a ces acteurs politiques et économiques qui ont envie d'y participer. Et puis en même temps, on voit bien que au fond, le CO2, la pollution, pose une question de pouvoir colossale, puisque ce système émetteur de gaz à effet de serre est tellement au cœur de notre économie, est tellement lié aux multinationales, à la mondialisation, au système bancaire, au système financier, qu'en vrai, vraiment s'y attaquer, ça veut dire faire tomber ce système. C'est ce dont parle Naomi Klein dans son livre qui vient de sortir, This Changes Everything, ça change tout, mais c'est ce niveau-là d'enjeu, et donc évidemment que l'ONU va pas œuvrer elle-même au renversement de son propre système. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien. Donc on est dans un moment qui est un peu compliqué, qui est parfois un peu confus. Mais moi, je pense, alors je suis optimiste et je l'assume et je pense que je préfère être optimiste que désespérée. Mais moi, j'y vois la possibilité d'espace politique, de mobilisation un peu nouveau, mais qui se travaille parce que on a eu d'autres exemples historiquement de moments comme ça de bouleversement technologique et individuelles qui ont absolument pas apporté de changement social, c'est par exemple ce qui s'est passé autour d'Internet, où à un moment, des hackers, des gens avec une culture assez contestataire ont commencé à inventer des ordinateurs, puis des logiciels, puis des façons de communiquer avec Internet qui étaient complètement parallèles au système, voire alternatives, voire anti-système. Et puis finalement, au bout d'un moment, tout ça est bien rentré dans l'ordre et a créé les nouveaux oppresseurs économiques d'aujourd'hui, que sont Amazon, Google, etc., Facebook.
Et une nouvelle source d'émissions de gaz à effet de serre.
Et une énorme source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc rien n'est joué. Enfin voilà, la bataille, elle va se jouer jusqu'au bout. Et donc du coup, dans ce contexte-là, l'enjeu des luttes, de mener des luttes sociales et de poser le problème du climat en termes de lutte est absolument nécessaire et indispensable et fondamental pour pas que ça soit simplement le système qui se remette en place simplement un peu reverdi, quoi.
Alors dans les propositions ou dans l'histoire des luttes récentes pour la justice climatique, il y a notamment la question des camps Action Climat auxquels vous avez activement participé. Donc le premier camp Action Climat, c'était contre l'extension de l'aéroport de Londres.
Ouais.
Qui dit lutte contre l'extension d'un aéroport pense aussitôt à Notre-Dame-des-Landes. Pourtant, à Notre-Dame-des-Landes, on parle peu de changement climatique.
Alors, à Notre-Dame-des-Landes, on parle un petit peu plus maintenant de changement climatique. Pour être tout à fait honnête, c'est vrai que pendant longtemps, la lutte des zadistes, donc des occupants de la ZAD, de la zone qui avait été réservé pour y construire ce nouvel aéroport. Cette lutte, longtemps, a beaucoup plus parlé d'État, a plus parlé de productivisme, a plus critiqué la ville, le système sécuritaire et le déni de démocratie que parler de dérèglement climatique. Il parlait aussi beaucoup de préservation des terres agricoles. Et ça a vraiment été pris, c'était un mélange vraiment de culture paysanne, de mouvements paysans et de mouvements plus libertaires, autonomes, anti-autoritaires. Là, en vérité, c'est en train un petit peu de changer et moi, je m'en réjouis, je trouve ça vraiment super important. Les autres sujets le sont aussi. Mais voilà, c'est un ensemble. Et l'été dernier, par exemple, rassemblement sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu toute une après-midi de discussions sur le climat. Donc, ça s'entremêle, ça commence à... Et la jonction se fait aussi entre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et la ZAD du Testé contre le barrage du Tarn, et qui, lui, pose des questions d'agriculture productiviste qui sont aussi mises en relation avec le climat. Donc moi, j'ai quand même le sentiment un peu d'une acculturation, quoi, des mouvements sociaux qui s'y mettent, quoi, petit à petit.
Alors, on peut peut-être juste faire le lien agriculture productiviste et climat, c'est tout simplement les émissions, c'est-à-dire que l'agriculture productiviste est...
Très émettrice de gaz à effet de serre, et c'est notamment la question du méthane qu'on a souvent l'impression qu'on passe souvent sous silence, mais qui est une cause majeure aujourd'hui de dérèglement climatique.
Est-ce que ça commence aussi à... Est-ce qu'il y a un peu de porosité aussi avec le monde syndical sur ces questions-là traditionnelles?
Alors, il y a très clairement une réticence. Enfin, ça, c'est pareil, c'est dans les deux sens. À la fois, oui, maintenant, vous avez des syndicats dans la coordination, par exemple, de la société civile qui s'est mise en place pour la préparation des mobilisations au moment du sommet de décembre 2015. Donc, il y a Solidaire, bon, qui est l'ensemble de syndicats avec lesquels c'était peut-être le plus simple. Enfin, en tout cas, eux, ils en ont fait maintenant une cause très importante. Et c'est un vrai changement par rapport à leur discours habituel et leurs revendications habituelles. Mais il y a aussi la CFDT. Il y a même la CGT, et en même temps la CGT, on la trouve aussi sur des positions très conservatrices dans le débat sur l'énergie, et notamment conservatrices sur « faut pas limiter la consommation d'énergie », eux ils sont encore énormément dans la rhétorique des besoins. Il faut satisfaire les besoins. Donc, eux-mêmes sont traversés de contradictions, mais les lignes commencent à bouger, et j'ai envie de dire, même au sein d'EDF, même au sein de GDF Suez, vous avez aujourd'hui des personnes qui, franchement, veulent faire la transition énergétique. Donc, dans ces grosses institutions, il y a des contradictions, mais qui sont prises et tenues par des enjeux de pouvoir qui les écrasent, hein, très souvent.
Alors, il y a dans les pistes, dans les stratégies de lutte, il y a aussi la question, au fond, justement, du secteur de l'industrie fossile. Il y a une étude qui était parue l'année dernière, faite par Richard Head, qui est un économiste, et qui montrait que 90 entreprises sont responsables des deux tiers des émissions de gaz à effet de serre depuis qu'elles ont été émises, donc principalement évidemment du CO2, donc là on retrouve Exxon, Chevron, Total, etc., mais aussi du méthane, et donc on retrouve les géants de l'agroalimentaire, il y a aussi Lafarge avec le ciment, etc. Ça fait une cible possible aussi? Ça fait un axe d'action possible?
Moi, je crois de plus en plus à un ensemble d'actions enfin, on parlait de multi-échelle tout à l'heure, à des actions qui seraient à plusieurs niveaux, à la fois grassroots, donc mouvement populaire, type résistance contre des projets précis, parce que là, c'est opérationnel et on arrête un truc. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, potentiellement le barrage du Tarn, les toxic tours, voilà. Là, il y a un ensemble de mouvements hyper locaux, hyper concrets, on demande un truc précis. À côté de ça, je pense qu'il est tout aussi important la pression soit exercée sur ces grandes multinationales qui, en effet, sont des émettrices, sont des acteurs majeurs de cette histoire de pollution, de dérèglement climatique, mais qui jusqu'à présent, c'est absolument incroyable, ont réussi à échapper quasiment à toute responsabilité, puisque dans le cadre du protocole de Kyoto, ce sont les émissions des États, donc des sociétés, et donc en partie de nous, des personnes qui étaient mises à l'amende, surveillées et mises sous pression, et pas du tout celles des entreprises. Alors que ce sont ces entreprises qui gagnent de l'argent avec cette pollution. Enfin, c'est un raccourci, on va me dire c'est caricatural, et en même temps c'est quand même un peu vrai. Et donc du coup, l'enjeu aujourd'hui de nommer, mesurer leurs émissions à elles, de calculer qu'est-ce que ça représente, parce qu'aujourd'hui finalement, si on y pense, ces entreprises, leur pollution, elle est subventionnée. Elle est subventionnée par nos États, par nos systèmes de sécurité sociale, par nos impôts, etc. Ça va, c'est un problème majeur. Donc, renverser ce truc, ça me paraît hyper important. C'est du coup aussi très concret. C'est plus facile en termes d'action que de simplement parler de climat en général. Et un dernier truc, la physicienne et activiste indienne Vandana Shiva, aujourd'hui, elle, par exemple, elle demande carrément qu'on arrête de mesurer les émissions des États et qu'on mesure à la place les émissions des multinationales et que ce soit ça le nouvel indicateur de la lutte contre le changement climatique.
C'est ce que font les marchés carbone.
C'est ce que font les marchés carbone, sauf que les marchés, d'abord, toutes les entreprises ne sont pas sur le marché carbone. Deux, elles ont réussi à échapper à la contrainte de ces marchés en obtenant beaucoup plus de quotas gratuits, enfin de droits d'émissions gratuits que ce dont elles ont besoin. Et donc, c'est pas des marchés aujourd'hui, et puis sans contrainte, en réalité. Donc c'est pas, ça ne s'est pas encore révélé comme un outil opérant. Moi je pense par rapport à ça, la fiscalité, la contrainte et franchement des mobilisations sociales, y compris pour des pressions de type culturel, des boycotts comme ça s'était passé à l'époque contre le régime sud-africain d'apartheid.
C'était Jadeline Garde, la première invitée de la saison de Critique. On aura quelques bonus sur le web, donc vous pouvez connecter sur radiogrenouille.com/critique au pluriel pour trouver la suite de cet entretien. On a parlé notamment de toxic tours. Les toxic tours, c'est une forme de déambulation urbaine dans laquelle on se réapproprie l'histoire d'un quartier, dans laquelle on découvre les luttes des habitants et des habitantes. À Grenouille et autour de Grenouille, il y a une assez longue tradition autour de ces déambulations urbaines. Ce sont les promenades sonores. On vous propose donc pour clore cette émission d'écouter un extrait des promenades sonores. Ça se passe le long de l'Yvonne, autrement dit dans un bassin à la fois dense en population et en industrie polluante.
Critique.
C'est un jardin de 35 parcelles qui réunit les habitants, les écoles, les environs. Donc toute la cité, tous les habitants qui souhaitent jardiner ont une parcelle qui est attribuée par un porteur qui s'appelle Lamieux. Ils ont un forage, donc on a fait un forage, 13 habitats a fait un forage pour récupérer de l'eau de source. Et donc ça rayonne sur tous les jardins.
Bonjour. Bonjour.
Du coup, il y a vraiment du rassemblement, il y a du lien social. Et les gens, voilà, ils apprennent à se connaître. Ils apprennent à se connaître, ils apprennent à partager. Et je pense que ce jardin permet de se rencontrer et aussi partager des choses. Alors qu'il ne l'aurait peut-être pas fait avant. Et oui, pour moi, c'est du vrai lien social. Je dirais que le pari est gagné là-dessus. Donc, moi, en tout cas, pour 13 habitats et pour un gestionnaire comme moi, je trouve que le pari est gagné. Maintenant, voilà, c'est faire un deuxième forage et rayonner aussi sur toute la cité.
Ah ouais, si on ne gratte pas la terre, après elle n'est pas bonne. En plus, si on gratte, puis ça fait des belles tomates.
Voilà. Au bout des jardins, sur la droite, monte une rue avec des barrières vertes. Allez-y. Nous allons vers la colline où nous montons.
par rapport à d'autres cités, c'est calme quand même. Ah oui, c'est calme. Il n'y a pas de... Donc c'est calme. La CLCV, dernièrement, elle a fait venir des médiateurs, vous voyez, pour qu'ils attrapent un peu les jeunes, là, qu'ils soient un peu tranquilles l'été, parce qu'il y a pas mal de retraités dans le coin.
Une fois passées les barrières, juste avant de traverser la rue, pour continuer la montée, regardez sur votre gauche et cherchez des yeux le mot « lavoir ». Il est inscrit sur une façade, on va vous en parler.
Laissez-moi vous dire une chose, c'est que lorsque la cité a été créée, ici, en 1934, il y avait beaucoup d'employés de tramway. Et puis il y avait des gens qui travaillaient chez Rivera Carré aussi, des hommes et des femmes. Et il y en avait pas mal. Puis un peu plus loin, vous aviez Caudère. Caudère, ça fermait aussi. Là, ça employait 1500 ouvriers. Mais disons que le quartier est très bien. Il y a un club de ballon, l'US Micheliste, qui a remporté pas mal de palmarès, vous voyez. Ça, c'est très bien. Ensuite, nous avons le... Ça s'appelait le boxing avant. C'est-à-dire qu'à l'origine, ça s'appelait le lavoir. Et là, il y avait les ménagères qui avaient le linge.
Reprenez votre chemin, tout droit vers la colline, en passant devant le stade.
Ici, dans cette cité, il y a 277 logements. Il n'y a pas de machine à laver. Et on allait retenir. Et les lavandières lavaient le linge. Et ensuite, il étendait au premier étage en haut. Il y avait un étendage fabriqué à cet effet, vous voyez. Mais il n'y avait jamais de vol de linge, rien du tout. Hein. Ça, je peux vous l'affirmer. Bon, après, il y a eu les machines à laver, ça s'est terminé. Et puis, il s'est monté un club de boxing. Après, bon, ça s'est terminé. Et la CLCV a pris le boxing que nous, on a fait baptiser maintenant le lavoir. Alors là, à l'intérieur, la bibliothèque, si les gens veulent des livres. Le mardi et vendredi, ils font travailler les gosses aux études. Maintenant, s'il y a des problèmes du quartier, les gens, ils viennent nous voir, vous voyez.
Vous allez arriver au bout du stade. Sur votre droite, un portillon, passez-le.
Critique.
C'était donc un extrait d'une promenade sonore de Radio Grenouille le long des berges de l'Yvonne et autour des berges de l'Yvonne. Promenade sonore de Radio Grenouille qui se déplace en Seine-Saint-Denis, puisqu'il y en a une en cours de réalisation à l'Île-Saint-Denis. Donc c'est aussi quelque chose qui se déplace, un peu comme les Toxic Tours, et peut-être même qu'on peut imaginer des croisements à venir. Critique, saison 2, épisode 1, touche à sa fin. Donc on avait comme invité Jade Lingard autour de votre ouvrage « Je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi ». Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre.
Bah, merci à vous, c'était super de venir à Marseille.
Critique, c'est à retrouver sur le site web de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com/critique, critique au pluriel. Vous pouvez réécouter l'émission, la podcaster et écouter un certain nombre de bonus que nous allons enregistrer tout de suite avec Jade Lingard. À la réalisation, Jean-Baptiste Imbert, une émission donc proposée par Emmanuel Riondet et Nicolas Héringer. Assistant à la réalisation, Emmanuel Moreira. À bientôt.
Critique. Une émission proposée et présentée par Nicolas Héringer et Emmanuel Riondet. Critique.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.